moi je suis transmis des musulmans et des chasseurs orientales. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est une de combattre au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Tapis et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Les députés de la majorité ont saisi la Cour constitutionnelle hier lundi pour obtenir l'interprétation de l'article 70 de la Constitution dans le but de voir le chef de l'État rester en fonction jusqu'à l'organisation de la prochaine présidentielle. Certains observateurs estiment que ces élus ont raison de soulever cette question en ce moment, tandis qu'une autre opinion pense que ces députés devraient plutôt encourager l'organisation de l'élection présidentielle. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jean-Noël Mokondo est à la technique, Faisa Julie Bongonda et Biro et la Mégie sont à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Mugembo sous la supervision de Martin Sebou Jalou. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Le recours en interprétation que les députés de la majorité sollicitent auprès de la Cour constitutionnelle ne concerne pas seulement l'article 70, mais plutôt l'article 103 et également l'article 105 de la Constitution. Nous en parlons donc dans ces studios avec vous, les auditeurs qui êtes fidèles à cette émission, et aussi avec notre invité chez Zon Léonard, chez Okitundu, sénateur et cadre de la majorité. Bonjour, monsieur le sénateur.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, je crois que l'article 161 de la Constitution donne droit, en tout cas, aux membres de de l'Assemblée nationale ou encore du Sénat, de pouvoir, recourir pour interprétation, à la Cour constitutionnelle. Donc, nous disons que cette démarche, elle a sa valeur juridique.
Mais bien entendu, c'est le constituant qui a prévu cette possibilité à un dixième des parlementaires de chaque chambre, c'est-à-dire ça peut être un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, peuvent, le cas échéant, adresser à la Cour constitutionnelle un recours en interprétation d'une disposition constitutionnelle.
Alors, quand est-ce que le recours en interprétation peut intervenir? Quand il y a une compréhension.
Oui,
le texte, du contenu du texte, de la disposition.
C'est-à-dire que si les gens n'ont pas la possibilité de dégager ce qu'a voulu dire exactement le constituant, c'est pour dégager effectivement la volonté du constituant. C'est que le constituant a voulu dire dans cette disposition-là. S'il y a un malentendu, s'il y a une difficulté de compréhension, s'il y a une contestation sur la teneur de cette disposition, la seule autorité habilitée pour trancher, c'est justement la Cour constitutionnelle. Donc l'interprétation se fait par une autorité que le constituant a prévu pour ce faire.
Et quelle est l'interprétation de la majorité de l'article 70?
Bon, ben ici, vous avez dit les députés de la majorité. Non, écoutez, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui ont adressé ce recours en interprétation. Vous ne pouvez pas dire que c'est uniquement les députés de la majorité. Pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est une démarche qui a été faite par les députés qui sont à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Alors, ça m'étonnerait que ce soit uniquement la majorité.
Alors, si on peut aller plus loin, aujourd'hui, vous êtes quand même cadre de la majorité. Quelle est la vraie interprétation de la majorité par rapport à l'article 70?
Bon, alors, écoutez, il y a le débat actuel, si je peux me résumer, c'est du rôle autour de deux dispositions fondamentales avec d'autres dispositions qui sont en relation avec ces deux dispositions. C'est d'abord l'article 75, en relation avec l'article, effectivement, 70. La question se pose de savoir qu'est-ce qu'il advient au terme du mandat présidentiel. C'est la question fondamentale. Bon, ici, la question qui se pose, c'est aujourd'hui, nous acheminons effectivement vers le terme du deuxième mandat du chef de l'État en exercice. Et puis, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il adviendra si 90 jours avant le terme du mandat du chef de l'État en exercice, les élections n'ont pas lieu. Parce que, en principe, au sens de l'article 73, les élections doivent se présenter, doivent se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État en exercice. Alors, qu'est-ce qu'il advient? Alors, il y a une opinion.
Nous n'en sommes pas encore là. Voilà, 90 jours.
Oui, mais justement, le débat est là.
Est-ce que le débat précédait la date échue ou bien il fallait réellement attendre qu'on arrive au mois de septembre, l'électorat n'est pas convoqué, nous constatons, et la Cour constitutionnelle aura du pain sur la planche, aura de la matière pour, en fait, tabler, faire le contrôle sur la constitutionnalité.
Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Si vous m'avez appelé, c'est parce que le débat est en cours. Mm-hmm. Ça fait un bon moment maintenant que le débat est en cours. Mais puisque le débat a eu lieu, il faut quand même s'exprimer à ce propos. Et c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer. Donc ici, nous sommes face à deux postures. La première posture, c'est celle d'un chef d'État en exercice, un chef d'État en cours de mandat, et qui est confronté à une situation, à une cause d'empêchement définitif, c'est-à-dire une cause qui l'empêche de poursuivre son mandat jusqu'au terme de celui-ci. Donc un chef d'État en plein mandat, ça c'est la première posture, vous comprenez? Et ça, c'est, cette situation-là est régie par l'article 75 de la Constitution. Et puis nous avons une deuxième posture, c'est celle des chefs d'État au terme de son mandat, mais qui attend la passation du pouvoir, donc l'installation effective du nouveau chef d'État élu. Bon, et là, il y a deux situations. La première, c'est celle où le chef d'État, le nouveau chef d'État a déjà été élu, et puis la deuxième posture, celle où le chef d'État n'est pas encore élu, mais que celui qui est en exercice arrive au terme de son mandat. Commençons par la première posture, c'est-à-dire l'article 75. Là, les causes l'empêchement définitif sont limitativement énumérées par le constatatif. C'est quoi? C'est-à-dire qu'un chef d'État en exercice qui est en plein mandat, par exemple, il est à la deuxième année de son mandat, et puis tout d'un coup, survient une cause d'empêchement définitif. Quels sont ces causes d'empêchement définitif? C'est le décès,
la maladie,
par exemple, une maladie, effectivement, qui l'empêche de poursuivre son mandat jusqu'à son terme. C'est ça, l'empêchement définitif. Et puis, il peut y avoir aussi toute autre cause d'empêchement définitif. Il est possible qu'il soit condamné, par exemple, par la Haute Cour de justice, et puis, en ce moment-là, il ne peut plus poursuivre son mandat jusqu'à son terme. C'est ça.
Et quand le constituant définit deux mandats, pas plus, ce n'est pas un empêchement?
Non. On finit d'abord l'article 75. Alors, c'est ça. Ici, il est un chef d'État en plein mandat. C'est ce qu'on a bien compris.
Tout à fait.
Par exemple, vous êtes à la deuxième année de votre mandat, mais votre mandat est de 5 ans. Mais vous êtes à la deuxième année, et puis tout d'un coup arrive une cause d'empêchement définitif. Et ces causes, c'est le décès, la démission, ou toute autre cause. Et moi, je vous donne un exemple, parce qu'il y a aussi un débat sur toute autre cause. C'est par exemple, si l'État a été condamné pour haute trahison, par exemple, pendant cette période-là, et qu'il ne peut plus poursuivre son mandat. Dans ces conditions, effectivement, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim, destiné à organiser les prochaines élections pour qu'il soit issu un nouveau président de la République. Ça, c'est l'article 75. Donc, la posture ici, c'est un président de la République en plein mandat et qui ne peut pas arriver au terme de son mandat parce qu'il est confronté à une cause d'empêchement définitif. Première posture. La seconde posture, maintenant, c'est le chef de l'État qui arrive au terme de son mandat. Mais il se trouve en situation où par exemple, les élections n'ont pas eu lieu parce que, pour telle ou telle raison, donc le nouveau chef d'État n'est pas encore installé définitivement, ou alors on attend que le nouveau chef d'État soit élu. Dans ces conditions, le chef de l'État, arrivé au terme de son mandat, reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau chef de l'État soit élu. C'est ça l'article 70.
Alors,
alors le débat, il est quoi? Le débat, d'abord, il y a deux confusions, parce qu'on confond les deux postures. Celle d'un chef d'État en plein mandat, voilà, et celle d'un chef d'État en fin de mandat. Alors, puisque l'article 73 a prévu que les élections doivent être organisées 90 jours avant l'expiration du mandat, pour cette thèse-là, ils disent, puisque la non-organisation des élections, telle que prévue par la Constitution, est une cause d'empêchement définitif. Ce n'est pas vrai. Parce que la cause d'empêchement définitif a été prévue par l'article 75 et concerne un chef d'État en cours de mandat.
Alors,
ça, c'est la première chose. Donc, pour l'article 70, c'est un chef d'État arrivé au terme de son mandat. Donc, la non-organisation des élections n'est pas une cause d'empêchement définitif parce que le président qui est au terme de son mandat attend le nouveau chef d'État pour qu'il y ait installation effective de celui-ci.
Voilà. En attendant de passer la parole aux auditeurs qui sont d'ailleurs nombreux, qui veulent bien participer à cette émission, mais j'aimerais bien, Cheikh Kitundu, que vous nous expliquiez un peu la constitution, notre constitution, les motivations, pour qu'il y a dans l'exposé des motifs. On a énuméré les motivations qui ont milité à l'élaboration de cette constitution.
Oui.
Est-ce que vous rendez compte, comme les autres observateurs, que la légitimité, la question de la légitimité du retour du mandat du chef de l'État, c'est ce qui a posé problème et qui a fait qu'aujourd'hui, les gens sont allés à Sainte-Cité, globalement, ils se sont mis d'accord. L'esprit, déjà, de la constitution a été explicite dans l'exposé des motifs. Point encore besoin d'aller chercher l'interprétation ailleurs, parce que nous devons entrer dans un cycle normal d'organisation des élections régulièrement. Le fait de ne pas l'organiser, c'est violer la Constitution, et surtout le préambule qui est clair.
Mon cher ami, vous êtes en face d'une personne qui a joué quand même un des rôles parmi ceux qui étaient aux premières loges lors des négociations à Sainte-Cité. Et je crois que je peux quand même dire un mot
sur l'esprit
de cette constitution. Personne n'a volé, n'a violé l'esprit de la constitution. Mais lorsqu'on se retrouve devant une situation où le scrutin ne peut pas avoir lieu, vous ne pouvez pas dire impérativement.
Pourtant, il y a une mission régalienne qui a été assignée aux garants de la Constitution et au gouvernement, c'est-à-dire d'organiser régulièrement, ça c'est les constituants qui l'ont dit, dans son exposé des motifs.
Oui, tout à fait. Mais la question pour l'instant, je crois que cette question sera abordée lors du dialogue qui est prévu.
Voilà, okay. on va y revenir pour savoir.
On est encore ici au mois d'avril, mais puisque le débat a surgi prématurément, c'est pour ça qu'on s'exprime actuellement.
Donc,
nul besoin ici de violer l'esprit de la Constitution.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Au Capitan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Mégamix de 19h à minuit. Au Capitan Noué, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Maître Gaël, vous êtes à Kinshasa, Sylvain Boudia, Ernest Amatadi. Maître Gaël, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour à l'invité et bonjour à tous les fidèles de la Radio Capi.
Voilà, Maître Gaël, quel est votre avis?
Merci Monsieur J.R. pour m'avoir associé à ces débats. Entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Un état de droit qui, dans son fonctionnement, dans son organisation, dans ses rapports avec les citoyens, doit. La Constitution, elle est notre loi fondamentale. La Constitution, elle est suprême. comme le disait un juriste français, la Constitution est notre mère. Violer la Constitution, mal interpréter la Constitution, c'est créer l'instabilité et l'anarchie dans un État. Concernant notre thématique, parlons-en, M. J.R. L'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Monsieur J.R., l'article 70 aura son effet que lorsque l'article 73 de la Constitution a été dit, a été mis en mouvement. Comme l'exige la Constitution à son article 73, les scrutins pour l'élection de son successeur, donc le président qui va entrer en fonction, devra être convoqué 90 jours avant cette date. L'article 70 est clair, M. J.R., il n'y a pas d'interprétation, c'est clair comme l'eau dans un verre clair. Concernant la démarche entreprise des députés nationaux de la majorité, en vue de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 70, sur le plan formel, nous disons que elle est fondée en vertu de l'article 161 de la Constitution. Mais M. J.R., comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bas. Il faut qu'il y ait au préalable élection présidentielle pour que l'article 70 soit appliqué. La balle est à côté de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle qui a été saisie. Nous demandons à cette Cour d'être impartiale, de se conformer à la Constitution en vue de régler cette question parce que la Constitution a déjà réglé cette question. Merci, M. Gilles, voici ma contribution.
Merci beaucoup, Maître Gaël. Pour vous, l'article 70 est clair, voire même limpide, comme des lots, mais elle est prisonnière, en tout cas selon l'esprit et la lettre, en tout cas, de vos propos, prisonnière de l'article 73 et l'article 75. Merci beaucoup, Maître Gaël. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, je voudrais saluer les sénateurs Chogi Tundu et saluer tout le Congrès.
Vous avez la parole, vous venez de suivre Maître Gaël qui a dit, en tout cas pour sa part, l'article 70 a été rédigé dans un français clair, en tout cas un français limpide, point n'a besoin de procéder à son interprétation, outre, et puis disons, ce même article est prisonnier d'autres articles, notamment 73 et 75.
En fait, il faut faire un mariage correct entre les articles 70, 73, 75, 211. Je compte de l'impression que les Congolais tendent petit à petit à oublier la pratique de la coutume constitutionnelle. L'article 70 dit clairement que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Pour stop. Il n'y a pas de débat autour de ça. Et lorsque vous allez sur l'article 73, il a été clairement stipulé que la convocation des élections du nouveau président doit se faire 90 jours avant l'expiration du chef de l'État en exercice. Est-ce qu'il y a contradiction? L'article 75, je souhaite sauter, mais je saute sur l'article 211. La Commission électorale nationale indépendante est chargée du processus, disons, de la régularité du processus électoral dans les pays. Est-ce que nous sommes dans ce cas décisif, dans cette gouvernance? Je voudrais poser cette question au sénateur. Parce que j'ai comme de l'impression que nous avons vite oublié d'où est-ce que le Congo est tiré. Je pense, à mon avis, il faut que les Congolais, surtout ceux qui sont dans la scène politique, arrêtent de diaboliser le peuple congolais avec des pratiques qui divorcent d'avec la vision de l'émergence de ce pays, la vision de la paix et de la stabilisation de ce pays.
Oui, Sylvain, pour enchérir un peu ce que vous dites là, est-ce qu'on peut dire que vos propos, vous rejoignez donc l'esprit et la lettre du préambule qui dit afin de éviter des crises à répétition de légitimité dans le pays, voici les membres qui étaient à Saint-City se sont mis d'accord pour mettre sous pied un nouvel ordre politique en organisant bien entendu des élections régulièrement. Donc c'est déjà là l'esprit et la lettre.
Oui. Vous savez, ce qui s'observe en République démocratique du Congo depuis un certain temps, c'est une lecture aléatoire de la Constitution. Je ne dirais pas une lecture diagonale et des fois obsolète. Parce que lorsque nous restons dans notre Constitution, mettons d'abord dans notre esprit ou dans notre chair, congolais, que cette constitution a tiré le pays d'où. Nous lisons la première page que vous appelez préambule, jusqu'au dernier article. Mais écoutez, le souci majeur de ces constituants était de retourner le pays sur le chemin de la paix. Mais lorsque nous observons ce qui se passe maintenant, avec toutes les démarches, la saisine de la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 70, tout ça, est-ce que réellement nous sommes restés dans l'esprit de notre conscience ou bien nous voulons tout simplement prendre cette position et, la fouler au pied? Moi, je dis, monsieur Gère, clairement comme un Congolais averti, c'est que trop, c'est trop. Les gens doivent arrêter de manifester avec le peuple congolais. Les gens doivent comprendre que la stabilisation de ce pays dépendra tout simplement du respect strict de la constitution dans tous ces articles.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé les Bouillards. Ernest Amakadi. Bonjour, Ernest, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR, et bonjour à notre invité et à ceux qui nous occupent à ce moment ici.
Quel est votre avis?
Merci, les articles 70 et 63 sont venus d'être cités. Mais moi, j'ajoute à ces articles, l'article 62, qui nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République par rapport aux élections et au mandat du chef de l'État. Ce n'est pas en vain que ceux-là qui ont confectionné cette Constitution avaient cherché à insérer l'article 73, qui est un article dépendant de la CENI. C'est-à-dire qu'on a pris une partie du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante d'incorporer dans la Constitution pour que cela soit une innovation, cela soit un élément de détail pour que nous puissions nous conformer à notre loi fondamentale. Cela signifie que on ne peut pas aujourd'hui accepter d'aller induire notre haute cour à une erreur grave en les poussant à une interprétation qui serait erronée pendant que le calendrier électoral pour le président de la République est déjà défini dans la Constitution. Mais les initiateurs de la loi ou de l'interprétation qu'ils ont déposé, comme on dit, disons, leur droit légitime de le faire, mais ils ont une peur bleue. Peur bleue parce que on a déjà failli en révisant la Constitution en 2011 pour effacer le deuxième tour d'élection qui venait avec l'élection du président de la République au premier tour avec les députés nationaux et puis les députés de profession qui, à leur tour, allaient voter les gouverneurs et les sénateurs. Et comme on avait déjà effacé cette parenthèse-là, la CENI a eu des difficultés pour organiser la suite des élections pour renouveler le Sénat. Or, l'Assemblée nationale connaît très bien cette réalité qui, aujourd'hui, ils veulent prendre ça comme raison, astuce, pour se dire si le mandat du président de la République se termine aujourd'hui, qu'est-ce que va nous devenir? La Constitution ne dit pas clairement quand est-ce qu'on peut organiser l'élection des députés ou des sénateurs, mais dit clairement comme de l'eau, comme l'a mis l'exemple de dire, la fin du mandat du chef d'État est le mécanisme de l'organisation des fonds d'élection. Donc, que ses amis cessent d'induire la Cour à l'erreur.
Voilà, il n'y a pas. Voilà, je pense qu'il n'y a pas un groupe de gens qui induisent la Cour à l'erreur. Je crois que Ernest, dans le débat, nous attendrons donc la suite de la Cour qui, en fait, réservera une réponse. Hein, en tout cas, c'est là. Donc, on ne peut pas aller droit. Bon, alors, donc, nous revenons dans ce studio. Monsieur le sénateur, c'est vrai. Bon, quelle est votre réaction par rapport à cette les appréhensions des uns et des autres?
Je partage avec eux une idée très claire. C'est que l'article 70 est clair et limpide. Et ce que j'ai appris, eux-mêmes sont nécessairement des juristes, ce que j'ai appris déjà dans le cours d'introduction au droit en matière des règles d'interprétation, c'est lorsqu'une disposition est claire et limpide, ça ne s'interprète pas. Alors, qu'est-ce dit cette disposition? Hein? À la fin de son mandat, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation définitive et effective du nouveau président élu. Point barre. Cet article n'est pas lié à l'article 73. Ça, c'est son interprétation à lui. C'est lui qui interprète. Et lui, il n'est pas chargé d'interpréter la Constitution. Il donne son point de vue. Tout comme moi ici, je donne mon point de vue. La seule autorité, il faut aussi respecter la fameuse Constitution dont il réclame le respect. Laisser la Cour constitutionnelle interpréter. Toi, tu donnes ton point de vue. Comme moi, je donne mon point de vue. C'est ça la question. Donc cette disposition, elle est claire et limpide. Le président de la République, au terme de son mandat, reste en fonction en attendant l'installation effective du nouveau président. C'est ça. Ici, je tiens à vous apporter une précision importante. Parce qu'on dit, l'article 70 ne dit pas qu'on octroie un troisième mandat au président qui arrivait au terme de son deuxième mandat. Ce n'est pas un mandat. Il attend simplement que le nouveau chef d'État soit élu, tout simplement.
Alors, il va attendre.
C'est ça, la question. Donc, dire prisonnier, mais mon cher ami, même l'article 73. L'article 73 aussi est tout à fait clair. Il faut effectivement, les élections doivent être organisées 90 jours avant. Bon. Et si les élections ne sont pas organisées? Et si il se produit un cataclysme ou un événement important qui empêche les élections d'être organisées en ce moment-là? Que fait le président qui arrive au terme de son mandat? Il fait quoi? Hein? Il peut y avoir n'importe quelle cause qui empêche les élections de se dérouler conformément à la Constitution. Vous allez faire quoi? Donc, arrêtez, je vous dis sincèrement, je crois qu'il donne son point de vue. Alors, il dit, on veut diaboliser le peuple congolais, tu sais, les lectures aléatoires, obsolètes, l'article 70. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est votre point de vue. Hein, vous comprenez? C'est pour cette raison, lorsqu'il y a un débat, il faut effectivement chercher l'autorité habilitée pour interpréter la Constitution de le faire. Et c'est pour ça, effectivement, que certains députés ont estimé que dans ces débats, le seul moyen de nous départager, c'est de nous adresser à l'autorité habilitée. Alors, c'est comme vous disiez tout à l'heure. Alors, il dit, il ne faut pas induire la Cour en erreur, mon frère. Mais cette Cour a été constituée conformément à la Constitution. La Cour-là, elle est constitutionnelle. Elle a été formée, composée conformément à la Constitution. Mais laissez la Cour se déterminer sur cette question-là, parce que c'est son but. D'ailleurs, cette Cour, elle doit être heureuse, parce que pour ne pas être payée pour rien, elle a besoin du travail. Donc, on lui donne la matière, effectivement, à exercer son travail. Et puis, vous savez, dans certains pays... dans certains pays, vous savez... Il y a, pour les constitutions, il y a beaucoup de professeurs d'université, et même pour la, ce qu'on considère comme la constitution de la société internationale, la charte des Nations Unies. Il y a des professeurs qui ont fait des commentaires article par article. C'est ce que d'ailleurs nous voulons, même, c'est un appel actuellement qu'on lance même aux professeurs d'université de faire comme ça se fait dans d'autres pays, de commencer article par article pour justement déterminer ce qu'a voulu dire le Constitution. Et d'ailleurs, ce sont des textes
est-ce que vous pensez, on va passionner le débat.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que la Cour peut interpréter, disons, en dehors même de l'esprit et la lettre, qui, je reviens encore sur ça, tel que défini dans l'exposé des motifs.
Mais, mon cher ami, l'exposé des motifs et le corps même de la Constitution...
Tout à fait, parce que...
Mais écoutez, font partie de ce qu'on appelle en droit le bloc de constitutionnalité. Donc, on ne peut pas dissocier. L'exposé des motifs fait corps avec...
L'exposé des motifs.
Mais justement, c'est ça, justement. Vous parlez
afin d'éviter des crises de légitimité à répétition.
Mais personne n'a
réussi. Là, nous tendons vers une crise de légitimité.
Pas du tout. Parce que remettre en cause la légitimité, c'est-à-dire, ça veut dire que renoncer à organiser les élections. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Pas n'importe quelle élection. Des élections crédibles, apaisées et conformes aux standards internationaux. C'est-à-dire des élections qui, une fois organisées, arrivent à déterminer la vérité des urnes. Afin que les résultats électoraux ne soient pas contestés avec les conséquences que ça implique par rapport aux conflits post-électoraux.
Donc c'était l'aveu de l'échec des élections organisées en 2006 et 2011.
Mais écoutez, ça a été reconnu. Ça a été reconnu. En 2006, vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu des conflits post-électoraux, avec les conséquences que vous avez vues. Et ces conséquences se sont aggravées encore une fois en 2011. Vous savez très bien. La précipitation qu'il y a eu, parce qu'il fallait à tout prix organiser les élections.
Alors, en 2011, il y a des observateurs, même des confessions religieuses, et qui ont dit clairement que les résultats ne reflétaient ni la vérité électorale, ni la vérité des urnes. Donc voilà, donc
non, vous ça, c'est votre point de vue. C'est pas faux. Je crois que les observateurs ont dit qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais que ces erreurs, même si on les interprète, n'est annulé pas l'élection. Le résultat définitif était considéré comme...
Voilà, on va prendre Franck qui est à Kinshasa. Madame Alphonse Laïciro, maître Freddy Akalemi. Nous rappelons à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer le 081-890-6315 pour participer à ces débats.
Cette histoire vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, les colonies, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les enfants sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans toute l'histoire.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous avons le plaisir de recevoir donc dans ce studio monsieur le sénateur Léonard Cheokitungu, qui est un des cadres de la majorité, pour parler de cette requête des députés de la majorité, qui venait donc de saisir la Cour constitutionnelle hier lundi pour obtenir l'interprétation de l'article 70, notamment de la Constitution, dans le but de voir le chef de l'État rester en fonction jusqu'à l'organisation de la prochaine présidentielle. Alors Franck, vous êtes à Kinshasa. Madame Alphonse Laïciro, maître Freddy Akalemi. Franck, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
L'honorable sénateur Chokitondo qui est avec vous au studio. Bonjour aussi à tous les amis qui se sont déjà prononcés et à ceux qui vont se prononcer.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole. Nous savons tous que l'initiative de ces honorables députés saisissant la Cour constitutionnelle pour la vraie lecture des articles 70, 103 et 105 est en soi une des expressions libres de la démocratie. Jusque-là, les problèmes ne se posent pas encore parce qu'ils sont libres en tant que citoyens congolais et en plus de leur titre respectif d'être représentants du peuple à ce niveau national. Les opinions émises, elles peuvent être multiples selon qu'on s'assigne les différents objectifs. Mais déjà sur vos ondes, il y a quelques semaines, je suivais certains débats au cours desquels certains professeurs du droit constitutionnel chez nous ici à l'UNIFIL, dont les profs Kalalati Bangou et André Mbata ont eu à éclairer d'une manière technique et juridique la lecture de certains articles de notre Constitution, surtout ceux ayant trait en cas de vacances sur le fauteuil présidentiel, si jamais les élections n'ont pas eu lieu selon les délais prévus par la Constitution. Selon moi, je trouve que du fait que ces députés de la majorité ont déjà saisi la Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir approprié pour trancher de telles questions. Il faut qu'on attende encore. Selon moi, je trouve que le vrai débat sur cette question aura lieu lorsque la Cour constitutionnelle aura réagi. Toutefois, s'il y avait vraiment de la volonté politique,
oui, mais je ne sais pas par quelle voie va agir la Cour constitutionnelle. Ce sera par un arrêt. Ça sera par comme l'on fait lorsque le président de l'Assemblée nationale avait demandé l'interprétation d'un des articles par rapport à la motion de défiance qui était d'ailleurs étouffée. Voilà, donc la procédure et tout. Est-ce que la Cour agira donc pour répondre par un arrêt? Bon, c'est pratiquement des questions parce que l'arrêt est inattaquable.
Bon, jusque-là, je peux dire que quand on écrit une lettre à quelqu'un, la réponse ne peut être possible qu'après la lecture de la lettre. La pétition est adressée à la Cour constitutionnelle. Elle doit être reçue, traitée, analysée avant d'être éclairée, quoi. Comme la Cour constitutionnelle ne réagit pas encore, tout ce que nous allons dire peut anticiper ou bien désorienter. Mais comme on le sait, si vraiment nous sommes sérieux par rapport à ce que nous sommes, la Cour doit répondre. Et c'est après seulement que le vrai débat va commencer. Parce que juste ici, pour moi, ce sont les préambules de ce débat. Je trouve que si on était conséquent et prévoyant, on pouvait déjà s'épargner ce débat. Parce que C'est pas hier à 20h qu'on a commencé à penser qu'il y aurait des élections en 2016. C'est depuis 2011 qu'on devait savoir qu'en 2016, il y aurait des élections à tous les niveaux et qu'on devrait prendre toutes les dispositions adéquates pour que ces élections soient transparentes, libres et crédibles. Mais si on doit maintenant objecter que nous voulons avoir des élections libres, transparentes et crédibles, c'est comme si c'était seulement à partir d'hier qu'on y pense, alors que déjà en 2012, 2013, 2014 et 2015, on nous disait qu'il y avait des paquets budgétaires prévus pour les organisations des élections. Et si maintenant on dit que les élections ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de finances, ça donne à penser. Si on dit que les élections ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il y a des problèmes du fichier électoral, mais ce problème avait déjà été évoqué depuis 2011. Il fallait vraiment attendre le mois de juin 2016 pour commencer à revoir tout ça.
Merci.
C'est comme ça que, quelque part, ça met certains Congolais avertis, mal à l'aise, et ça donne à penser. On ne veut pas argumenter à base de passion, mais nous pensons que nous nous adressons à des honorables, à des responsables.
Voilà, merci beaucoup, Franck. On va prendre Mme Alphonsine Aïssiro. Mme Alphonsine, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis?
En tout cas, merci de m'avoir accordé la parole. Je pense que la majorité doit faire beaucoup d'attention, car à l'heure actuelle, vraiment la population est plus vite, la population congolaise est suffisamment grandie. Ils sont capables d'étudier, d'analyser mot par mot tout ce qui se passe, tout ce qui est écrit dans la Constitution. Vraiment, la majorité doit comprendre qu'ils se trouvent devant des adultes comme eux, qui réfléchissent comme eux, voire même au-delà. Ce n'est pas à dire que quand ils sont capables de gouverner, ils doivent se réveiller matin, commencer à raconter les choses, quoi, et ils sont en train de se plaindre, on ne sait pas, ils se plaignent au fait de quoi, ce qui est clair, même un élève de l'école primaire, voire même un élève de troisième secondaire, fait vraiment seulement lire et bien analyser et bien interpréter ce qui est écrit dans la
Constitution. Oui, madame Alphonsine, je crois que certains observateurs estiment qu'aujourd'hui la question d'interprétation, c'est comme si nous nous situons dans l'exégèse, hein. Dans la Bible, tout le monde ne peut pas s'octroyer cette prérogative de pouvoir scruter la Bible. C'est un domaine réservé aux exégètes.
Et madame doit peser ses mots.
Voilà.
Parce qu'il faut être poli.
S'il vous plaît.
Nous sommes dans un débat. Voilà, il faut être courtoise, il ne faut pas provoquer.
Voilà.
Vous n'êtes pas face à un monsieur qui n'a pas étudié ou qui n'a pas écrit. Vous adressez à une personnalité qui a des responsabilités.
Voilà,
donc, quand vous vous adressez à moi, adressez-vous poliment.
Voilà,
moi, si je peux être violent, à votre égard.
Voilà, je crois que nous devons, comme par principe de cette émission, toujours le respect mutuel. Alors, madame, j'ai posé tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas comme les autres qu'il revient effectivement à la Cour constitutionnelle seule de pouvoir interpréter la Constitution, madame Alphonsine?
Bon, tout à fait d'accord, ils ont raison, peut-être c'est pas fair parce qu'ils ont peur de dire c'est mon président de la République qui est, en tout cas mon président, votre mandat va se renouveler à telle date, c'est raison pour laquelle je dois recourir là-bas pour avoir une protection. Je pense que c'est dans ce sens-là, mais dans le sens logique, je pense que le mandat c'est clair et les écrits sont clairs. C'est ce que moi je pense.
Merci beaucoup, madame. Comme vos prédécesseurs, vous estimez que l'article 70 est clair et limpide, point de besoin de chercher ailleurs une interprétation quelconque. Maître Freddy, vous êtes à Calémie. Bonjour, Maître Freddy.
Bonjour à tous les compatriotes congolais.
Alors, Maître Freddy, est-ce que vous estimez comme les autres qu'aujourd'hui, la démarche des députés de la majorité, c'est mettre vraiment la charrette devant le bœuf, parce qu'il y a un dialogue en perspective qui aura lieu, ces questions pouvaient être débattues pendant la tenue du dialogue?
Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que le peuple congolais, c'est un peuple déjà mature et même mûr. Et je voudrais intervenir sur pratiquement deux points en disant. D'abord, premièrement, par rapport à la forme. Et par rapport à la forme, j'ai dit, les députés nationaux ont la qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais j'apprends que je dis que les mêmes députés, ils ont agi par une confusion, et qui viole pratiquement la loi parce que l'article 161 de la Constitution stipule que lorsqu'il faut aller à la Cour suprême, on y va par requête au niveau de la cour constitutionnelle. Par rapport au fond, à ce niveau-là, j'ai deux interventions. Et premièrement, par rapport à l'opportunité. Est-ce que vraiment cette requête-là est opportune? Je pense que non. Non, pourquoi? Eh bien, parce que l'article 70 dont il est question, ne laisse à aucune confusion dans la mesure où le peuple, la constitution elle-même, le journaliste, moi j'ai toujours dit, si quelqu'un y part, eh bien, je l'épouserai. Parce que, aujourd'hui, le peuple congolais se demande si pourquoi de l'agitation des députés de la majorité qui cherchent à agiter tout simplement le peuple congolais. Parce que, monsieur le journaliste, l'article 70 s'applique en corrélité avec l'article 73 qui stipule que la convocation eh bien, des élections présidentielles doit
être avant. Bon, alors.
Exactement.
Oui, alors Freddy, pour vous, vous estimez qu'aujourd'hui, la Cour risquerait de vider la matière qui pourrait faire l'objet du dialogue?
Moi, je pense que la Cour doit tout simplement bien dire le droit pour ne pas plonger le peuple congolais dans la confusion. Parce que l'article n'était pas débat, n'appelle pas vraiment un débat. C'est clair. L'article dit que le président reste en fonction jusqu'à l'instauration effective du président élu. Peut-être que le participant s'est élu. C'est clair.
Non,
mais il ne dit pas qu'il reste en fonction jusqu'à l'instauration du président à élire. Non.
Voilà. Alors là, je crois que prochainement, nous ferons ce débat avec ceux qui détiennent, en tout cas, les clés de la sémantique, la matière, en fait, pour nous éclairer un peu sur le participe passé, le président, l'installation effective, parce qu'il y a un tel, il y a un mot qui est bien là, l'installation effective. Voilà. Donc, nous supposons que déjà, il y a un président élu et l'autre attend. Mais maintenant, la question, quand celui-là qui devait être élu ne l'est pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, Freddy. Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Je pense que notre constitution n'est pas muette à ce niveau-là. Je pense que l'article 74 et 75 résolvent pratiquement des solutions là-bas. Il y a un empêchement.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Freddy, d'avoir appelé des Calémies. On va prendre Maître Henri. On va éviter quand même de rester dans les juridismes, mais on est obligé parce que c'est l'article 70 qui divise les uns les autres. Voilà, Maître Henri, vous êtes avec nous à Kadanga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci bien, Monsieur Gilles. Merci aussi à l'invité.
Alors, quel est votre entendement, ou encore quel est votre commentaire par rapport à l'actualité, les députés qui ont saisi la Cour constitutionnelle hier pour obtenir l'interprétation de l'article 70? Vous pensez qu'ils ont raison, comme l'ont dit certains observateurs, et d'autres qui ont pensé que ces députés devraient plutôt encourager l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels?
Oui, Monsieur Gilles, la démarche elle est légale. Bien que par moment, nous qui sommes juristes, nous cherchons toujours à chercher beaucoup d'interprétations lorsque l'on se trouve dans un camp tout comme dans un autre. Bien que les députés de la majorité se sont évertués de saisir la Cour, bien sûr, par pétition au lieu de la requête, comme l'ont dit les précédents. Alors, je voudrais dire à l'invité que les articles 73 et 70 et 73 doivent être nous devons lire ces articles là concurremment. Donc c'est à dire que l'article 70 dit ceci: le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Cela sous-entend qu'il y a eu déjà au préalable élection et que pendant le temps qu'on devrait investir le nouveau élu, celui-là reste en fonction. C'est ça la compréhension. Mais pour ne pas tomber dans les juridismes comme vous le dites, attendons voir si la Cour constitutionnelle qui est habilitée à pouvoir interpréter la Constitution puisse interpréter, et cela doit être partagé les uns les autres. C'est ça.
Merci beaucoup, Maître Henri. Dominique, vous êtes en Bougibaye. Maître Dominique.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole après avoir suivi les uns les autres. Quel est votre entendement?
Merci bien, JR. Nous nous retrouvons devant des
considèrent qu'ils veulent tuer la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui sont partis, qui vous disent qu'ils ont été à la première loge, dans l'exposé des motifs, déjà on commence à dire depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà que aujourd'hui, 17 ans ou 13 ans après, on nous retourne encore à cette crise-là. On nous retourne à cette crise. Et monsieur, il y a un grand malheur. Je suis dit, monsieur Sow Kitundu, faire un aveu d'impuissance, un aveu de chèque et dire que depuis 2006-2011, ces élections-là n'ont pas été bonnes, elles ont été décriées, donc ils ont échoué. Ils ont échoué. Que peut-il me dire du train qui est en marche, selon lui? Qu'est-ce qu'il dit du train qui est en marche? Maintenant, en rapport avec la Constitution, monsieur Gilles, notre Constitution prévoit deux transitions, sans le dire. La première transition, c'est celle de l'article 70, qui prévoit que le président reste en exercice jusqu'à l'installation effective du président élu. C'est-à-dire, cette transition est de 3 mois. Le président qui est en exercice, lorsqu'un autre est élu, néanmoins, il reste, il y a deux présidents, mais l'un, le premier, là, reste en exercice jusqu'à l'installation effective de celui qui est élu. La deuxième transition, c'est celle de l'article 75, qui prévoit qu'il y a vacance. Quand il y a vacance, c'est le président du Sénat qui doit conduire. Ainsi donc, monsieur, il est vrai que, à la date, s'il n'a pas élection en décembre.
Mais Dominique,
s'il n'a pas élection.
Dominique, je voulais juste avoir une précision de votre part. Est-ce que vous comprenez, vous entrez dans la compréhension générale, que l'empêchement définitif, c'est la personne du chef de l'État, la personne physique, c'est-à-dire le cas de décès, le cas de la maladie, ou encore l'arrestation, voilà, donc en plein mandat. Ça, c'est l'empêchement définitif. Est-ce que vous avez cette compréhension générale, ou bien vous allez dans une autre interprétation?
Non, nous n'entrons pas dans l'empêchement définitif, nous entrons dans une autre phase qui est quoi? Toute autre cause. Toute autre cause, c'est que le mandat prend fin le 20. Après le 20, on constate la vacance. Et là, comme il y a vacance, pourquoi? Pour toute autre cause. Cette cause est quoi? On n'a pas organisé les élections. Comme on n'a pas organisé les élections, c'est le président du Sénat qui prend alors les arènes du pouvoir avec une seule mission, organiser les élections. Voilà les deux transitions que notre motion prévoit. Si j'entre dans la logique de M. Sow Kitundu, c'est que si on n'organise pas les élections. Donc, à partir du 20, Kabila peut rester au pouvoir, jusqu'à quand on organisera les élections, je ne sais pas, en 2040, 2050, parce que eux, ils veulent qu'il reste Mireille, comme Mobutu. Mais ils oublient que Mobutu est parti, nous l'a laissé. Ainsi donc, M. Sow Kitundu et toute leur clique là,
aujourd'hui, merci beaucoup Dominique. Vous avez dit l'essentiel en expliquant un peu pour toute autre cause, parce qu'on restait dans l'empêchement définitif. Nous, on a parlé de l'empêchement définitif pour la deuxième cas de figure, mais vous venez de dire que la disposition poursuit en disant, même pour toute autre cause. Vous estimez que toute autre cause là, ça peut être ne pas organiser les élections et qu'il n'y ait pas un autre président élu et à vacances. C'est que la transition de 3 mois revient au président du Sénat. Merci beaucoup, Maître Dominique, d'avoir appelé de Mbujimayi. Pacifique, vous êtes à Goma. Bonjour.
Voilà. Bonjour, Radio Café. Bonjour à l'invité du jour.
Voilà. Alors, Monsieur Pacifique, vous êtes avec nous. Quel est votre avis?
Ah oui, mon avis, c'est que c'est le chemin de la majorité, je crois, c'est un chemin qui conduit vers la perdition. Alors, j'avais dit ceci. Quand on parle de l'article 70 de la Constitution, cet article ne devrait pas être des mesures où le président de la République est déjà à la fin de son mandat. Et deuxièmement, je me dis que le député de la majorité se précipitent pour saisir la Cour constitutionnelle parce que ils savent voilà. Que demain ils viendront avec la,
oui.
La réponse à
oui, Pacifique. Pacifique, je crois qu'il y a vos prédécesseurs qui ont évoqué tous ces aspects. Quel est votre entendement par rapport aujourd'hui à la démarche? Est-ce que vous êtes d'avis que la démarche elle est constitutionnelle? Parce que l'article 161 donne le prérogative à un dixième des députés d'aller saisir aussi la Cour constitutionnelle à l'interprétation des dispositions constitutionnelles, ou carrément vous raisonnez les autres qui estiment qu'il faut plutôt penser à encourager l'organisation de l'élection présidentielle, ça nous éviterait ce genre de débats.
Absolument. Moi, je dis que la démarche des c'est une démarche qui conduit vers l'abîme. Il faut plus qu'on nous amène.
Merci beaucoup.
081-890-1533.
Pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Café vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Voilà, nous avons dans ce studio le sénateur Léonard Cheokitundu. Après avoir suivi cette deuxième série des auditeurs, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la démarche, voilà, tout le monde est d'avis que la démarche elle est constitutionnelle, mais le problème c'est que les articles dont il est question aujourd'hui qui font débat sont tellement clairs qu'il ne va même pas falloir chercher une interprétation quelconque auprès de la Cour constitutionnelle.
Non, ils disent une chose, ils sont contraires. D'abord, ils disent que c'est clair, mais ils disent qu'il y a une corréalité avec telle disposition, tout, ça, on rentre déjà dans l'interprétation. C'est ça la question. Donc, c'est un point de vue qu'ils donnent. Bon, donc, c'est tout ça que je dis. Nous sommes ici en démocratie parce que souvent, les gens disent la tête à la liberté de la parole, les machins, les libertés d'expression, voilà, on est en train de converser librement. Alors, il faut quand même un peu de courtoisie, même quand vous vous exprimez, même à mon égard. Moi, je n'ai pas commis un crime, je suis un citoyen comme vous. Donc, quand vous vous adressez à Cheokitundu, Cheokitundu a aussi des responsabilités. Je crois qu'il faut un peu de considération. Moi, je ne m'adresse pas à vous de cette façon-là. Ça, c'est la première remarque que je fais. Alors, vous savez, il n'y a rien de nouveau ici. Je crois qu'on est en train de tourner en rond. Ce qui est clair ne s'interprète pas. Moi, je vous dis que l'article 70 régit, gère la situation d'un chef d'État qui arrive au terme de son mandat. Ça peut être même en fin de son premier mandat, alors qu'il n'a même pas encore exercé le deuxième mandat. Donc c'est tout chef d'État au terme de son mandat. Il reste en fonction en attendant l'installation effective du nouveau président élu. Si vous savez cette disposition-là, regardez, il faut relire même au niveau de l'histoire constitutionnelle de notre pays. Il faut lire toutes les constitutions antérieures. C'est à peu près exactement la même chose. On ne peut attendre qu'un chef d'État élu. C'est un nouveau chef d'État que vous élisez, qui est élu. Mais au niveau de l'article 73, il peut se produire un événement qui empêche même et la commission électorale indépendante qui est pouvoir organisateur des élections, d'organiser cette élection. Qu'est-ce que vous faites pendant cette période-là? Hein? Vous voyez, il se produit un événement qui empêche les élections d'être organisées. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, non, il y a vacance du pouvoir? Non, ça c'est votre interprétation. Il ne faut pas confondre la responsabilité par rapport à l'organisation des élections et la situation qui régit un chef d'État qui arrive au terme de son mandat. S'il vous plaît. Moi, j'ai écouté quelqu'un même a fait référence au professeur Mbata, qui est un ami, mais que j'apprécie beaucoup. Tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est dans l'opposition, donc c'est de bonne guerre. Il dit, il donne un sens à une disposition constitutionnelle comme il l'entend. Mais là, encore une fois, il risque de sortir de la rigueur constitutionnelle. Moi, je vous dis, la non-organisation des élections ne peut pas être considérée comme une cause de vacance du pouvoir. Pas du tout. Hein? Là, il renvoie à l'article 75, et comme je vous ai dit, l'article 75 régit la posture d'un chef d'État en plein mandat. mais qui ne peut pas arriver au terme de son mandat parce qu'il y a une cause d'empêchement définitive.
Il n'y a pas de responsabilité responsabilité à dégager quand il n'y aura pas élection.
Pardon ?
Il n'y a pas de responsabilité.
Pas du tout.
Le gouvernement n'est pas responsable.
Mais justement, attendez, mais c'est justement ça qu'il faut faire la part des choses. Mm-hmm. Nous sommes ici face à un chef d'État qui est en plein mandat, en cours de mandat, et qui arrive, et il est confronté à une cause d'empêchement définitif. Il ne peut plus continuer son mandat jusqu'à son terme.
Oui.
C'est, à ce moment-là, c'est l'article 75.
Ça, c'est clair.
Même la situation de toute autre cause d'empêchement définitif, c'est là. La vacance du pouvoir, c'est pour un chef d'État qui est en plein mandat, l'article 75.
Alors maintenant, on est arrivé à la fin
mandat. Mais on est arrivé
on
à la fin.
On n'a pas organisé les élections.
On n'a pas organisé les élections.
Qui en sera responsable?
Mais, non,
le garant de la Constitution,
mais non, mais,
le gouvernement.
Ne confondez pas la situation de la responsabilité de voir organiser ou pas les élections et la situation concrète, c'est-à-dire les élections n'ont pas été organisées, il n'y a pas encore un chef d'État élu, mais on attend que ce chef d'État soit élu en ce moment-là.
Alors, quand bien même les raisons ne sont pas claires,
mais c'est clair, l'article 70 le dit clair. Le chef d'État qui arrive au terme de son mandat reste en fonction en attendant l'installation effective du nouveau chef d'État élu. Que celui-ci ait été élu ou il reste à élire. Le problème ici, ce chef d'État-là ne sollicite pas un autre mandat, c'est ce qu'on comprend. Il est là uniquement pour attendre que le nouveau soit élu, et en ce moment la situation est réglée. Parce que les gens, j'entends même les gens confondre le troisième mandat. On n'a pas, ici l'article 70 ne revendique pas le troisième mandat. Donc, voilà. À mon avis. Alors, l'autre élément.
Rapidement, parce qu'on a une minute.
Oui, parce qu'ils ont parlé de pétition, machin. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, les parlementaires qui sont là, ils sont responsables. Vous comprenez? Et ils usent la prérogative qui est reconnue par la Constitution. Mais quand qui vous a dit que c'est par la pétition qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle? Non. C'est un recours en l'interprétation qu'on adresse. Donc, c'est pas une pétition.
Merci beaucoup, monsieur Léonard Cheo Kitundu. Vous êtes sénateur et cadre de la majorité d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. On n'oublie pas toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Pierre Lamégie à la réalisation, Julie César Bongonda a assuré les standards. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lukembo sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. On se retrouve demain dans un autre numéro.